Dossier 4. Apprendre. A. Compréhension orale. Vous allez entendre une interview de l'écrivain Daniel Pénac.
Dans Chagrin d'école, votre livre le plus autobiographique, vous dites avoir été sauvé par quelques professeurs et par la lecture.
On ne m'a pas lu d'histoire quand j'étais gosse. J'étais le petit dernier d'une tribu de 4 garçons. Ma mère avait autre chose à faire. Elle était crevée, et ce n'était pas dans son caractère. Mais quand on m'a mis en pension, en 5e, pour cause de délinquance familiale, la lecture est devenue un bonheur clandestin. Une lecture chipée, le soir au dortoir, avec la lampe électrique allumée sous les couvertures. J'ai beaucoup lu à cette époque-là. Alexandre Dumas pour le romanesque, Kipling pour les contes, Dickens pour son ironie que j'adorais. Enfant, avant la pension, 2 lectures m'ont marqué. La chèvre de M. Seguin. J'étais la chèvre, bien sûr. Seul dans un combat perdu d'avance. Je suppose que le loup représentait l'école, les adultes. Et le Matteo Falcone de Prosper Mérimée. Cette terrible histoire d'un père qui tue son fils d'une 10aine d'années parce que le gosse l'a déshonoré. C'est dire la défiance radicale dans laquelle j'étais vis-à-vis du monde adulte.
Un mot encore pour qualifier cette période douloureuse.
Le mensonge. Un enfant, cancre comme je l'étais, est obligé de se réfugier dans le mensonge. Tout le temps. Quand il arrive en classe et qu'il doit justifier de ne pas avoir appris ses leçons, et quand il retourne chez lui, en affirmant que tout s'est bien passé à l'école. Or, l'élève le sait. Un jour viendra, fatalement, où les adultes représentant l'école et la famille se rencontreront. Un des grands travaux mentaux de mon enfance, c'était cela. Créer une cohérence fictive entre le mensonge fait à la maison et le mensonge balancé à l'école. Plus tard, cette connaissance du mensonge a énormément servi au professeur que je suis devenu.
Pas à l'écrivain ?
Surtout au professeur. J'ai été d'abord et avant tout professeur. En 27 ans d'enseignement, au collège comme au lycée, j'ai eu beaucoup d'élèves en grande difficulté scolaire. Et je savais qu'ils dépensaient une énergie phénoménale pour rendre leurs mensonges cohérents, et que mon travail consistait à récupérer cette énergie perdue pour qu'ils la réinvestissent dans l'effort d'acquisition des savoirs.
Comment êtes-vous devenu prof ?
Par hasard. Parce que ma maîtrise de lettres terminée, heureuse époque où on pouvait devenir prof avec une maîtrise, il a fallu que je prenne mon indépendance familiale en gagnant ma croûte. On est en 1969. J'ai 25 ans. J'ai passé mon bac à 21 ans. C'est vous dire ma précocité. On me propose un poste dans l'enseignement privé à Soissons, dans l'Aisne. Et je me retrouve, deuxième hasard, avec des gosses dans mon genre, des élèves de 3e en classe dite « aménagée ». La vocation est arrivée après quelques heures de cours.
Pour un mauvais élève, c'est une chance d'avoir un ancien cancre comme prof.
Disons que, très vite, je comprends que je dispose d'une culture que les autres n'ont pas. Je sais ce qu'un mauvais élève ressent. Je connais la chaîne des réactions. Peur, échec, inhibition, mensonge, honte, violence. Je sais qu'il me faut avant tout guérir le gosse de sa peur et que je dois le faire uniquement par la matière que j'enseigne, le français en l'occurrence. Sans faire de psychologie ni de sociologie, sans chercher à comprendre pourquoi il en est arrivé là. Parce qu'au fond, peu importe les raisons, la seule chose qui compte, c'est comment le gosse réagit. Si je parviens à l'intéresser à la littérature, à éveiller sa curiosité pour la si passionnante grammaire, la peur le quittera. Cette peur que j'ai tant connue moi-même, cette inhibition profonde. Je savais d'avance qu'on allait me poser des questions auxquelles je ne saurais pas répondre, alors même que je venais de répondre correctement à Bernard. Parce que, quand je lui récitais mes leçons, je les savais. Et le lendemain, devant le prof, plus rien.